Les pourparlers sur le nucléaire à Vienne vont être suspendus pendant quelques jours. Des avions de combat américains ont bombardé des maisons d'habitation à Osaka dans le nord-est de la Syrie. Et le Rwanda annonce la réouverture de sa frontière avec l'Ouganda à compter du 31 janvier. C'était les principaux titres. En voici le journal. Les pourparlers entre l'Iran et les puissances mondiales sur le rétablissement de l'accord sur le nucléaire de 2015 qui se déroule actuellement à Vienne, la capitale autrichienne, vont être suspendus pendant quelques jours, a annoncé vendredi 28 janvier une source des pourparlers à l'agence de presse iranienne Tasnim. Compte tenu de l'importance des questions en suspens et de la nécessité de prendre des décisions politiques, il a été convenu que les délégations retourneraient dans leurs capitales respectives pour des consultations, a indiqué la source. Le processus de négociation a été généralement consultatif et tourné vers l'avenir, et si les parties opposées prennent les décisions nécessaires après leur retour de leur capitale, il sera possible d'avancer plus rapidement vers un accord, a ajouté la source. Le 8e cycle de négociations entre l'Iran et les autres signataires restants de l'accord sur le nucléaire de 2015, officiellement connu sous le nom de Plan d'action global conjoint, a débuté le 27 décembre 2021. Jusqu'à présent, les États-Unis n'ont été qu'indirectement impliqués dans les pourparlers de Vienne en raison de leur retrait du pacte en 2018. En Irak, certains médias, dont la chaîne de Telegram Sabah News, ont rapporté vendredi que la base militaire américaine Victory, située à l'intérieur de l'aéroport de Bagdad, a été criblée à coups de 6 missiles. Pour l'instant, aucun groupe n'a revendiqué l'attaque et les sources officielles irakiennes n'ont pas encore commenté les informations en la matière. Les missiles ont été tirés depuis la zone de Hayal Jihad, près de la base américaine Victory, a précisé la chaîne de télévision Al-Alam. Selon la version livrée par une source de sécurité, la base américaine avait été prise pour cible le vendredi par un drone à 4 heures du matin hors local. Notant que le système de missiles anti-aérien américain SERAM a tenté de repousser l'attaque, mais son efficacité s'étant avérée proche de zéro, ce dernier a aperçu un énorme trou dans le cockpit d'un avion civil au lieu de missiles, comme le montrent les photos. L'intensification des attaques contre des bases américaines intervient alors que les groupes de résistance irakiens ont annoncé que la présence américaine en Irak depuis le début de 2022 était illégale. Pour eux, le passage de la mission militaire US en Irak à un rôle consultatif est une pure imposture qui fait partie du nouveau scénario américain visant à prolonger la présence des troupes US en Irak. Le premier convoi américain a été attaqué alors qu'il passait près de la ville d'Al-Divaniya dans la province méridionale d'Al-Rastisiya, tandis que le second a été attaqué aux alentours de la ville de Samava dans la province méridionale d'Al-Musana. Le troisième convoi a été pris pour cible alors qu'il avait emprunté la route principale de la province centrale de Babylone. Au total, 237 attaques, dont 57 à Babylone, 13 à Al-Musanna et 47 à Al-Radisiya, menées par les groupes de résistance irakiens contre les convois logistiques de la coalition américaine en Irak, ont été recensées depuis mars 2021. Le massacre de citoyens syriens innocents sous prétexte de faire face aux terroristes fugitifs de Daesh qui se sont évadés de la prison d'Al-Sina à Osaka avec le feu vert des États-Unis, c'est le scénario américain mis en œuvre à Osaka ce vendredi 28 janvier. Des avions de combat américains ont lourdement bombardé des maisons d'habitation situées autour de la ville syrienne de Osaka dans le nord-est de la Syrie, faisant de lourds dégâts matériels dans la région. Les forces démocratiques syriennes, soutenues par les États-Unis, sont présentes à Saqqa, dont elles répriment les habitants. Des sources locales ont rapporté que les FDS avaient pris d'assaut la province Raqqa et les villages environnants dans le nord de la Syrie et enlevé 50 civils. Considérant la présence américaine en Syrie comme une occupation, le gouvernement de Damas a appelé à plusieurs reprises les Nations Unies et le Conseil de sécurité à réagir à cette ingérence. Le gouvernement syrien a constamment exprimé sa vive colère auprès du Conseil de sécurité et de l'ONU contre les frappes aériennes américaines sur des zones civiles sous prétexte de lutter contre Daesh, les qualifiant de violation de la souveraineté syrienne. Les Émirats arabes unis ont finalement ordonné à leurs mercenaires de se retirer des régions qu'ils avaient récemment occupées. les deux opérations de représailles menées récemment par les combattants yéménites contre des cibles à l'intérieur des Émirats arabes unis ont poussé les miliciens à la solde d'Abu Dhabi à se retirer des régions qu'ils avaient occupées dans les provinces Chabfa et de Marib. En moins de deux semaines, l'armée yéménite a mené deux opérations militaires dissuasives contre des cibles aux Émirats, dont la première s'appelait Hurricane 1 et la deuxième Hurricane 2. À l'issue de ces opérations, le général de brigade Yahya Sali, porte-parole des forces armées yéménites, a souligné que la poursuite des mesures hostiles des Émirats au Yémen aboutirait à ce que l'expo de Dubaï fasse l'objet de frappes yéménites. Le retrait des miliciens à la solde d'Abu Dhabi des districts du Saïdan, de Bayan et de Harib, ordonné par les Émirats sous prétexte d'un redéploiement à Attar au centre de la province de Chabwa, prouve que les Émirats ont pris au sérieux l'avertissement des yéménites qui avaient appelé les occupants à mettre un terme à leurs ingérences dans les affaires intérieur du Yémen. Le président russe Vladimir Poutine et son homologue français Emmanuel Macron ont une conversation téléphonique vendredi pour discuter de l'établissement de garanties de sécurité à long terme et juridiquement contraignant entre la Russie et l'Occident. Selon un communiqué du Kremlin, M. Poutine a dit à M. Macron que la Russie étudierait attentivement les réponses écrites des États-Unis et de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, au projet d'accord de Moscou sur les garanties de sécurité. M. Poutine a souligné que les réponses des États-Unis et de l'OTAN ne tenaient pas compte des préoccupations fondamentales de la Russie, notamment l'arrêt de l'expansion de l'OTAN et la nécessité que l'Alliance Atlantique s'abstienne de déployer des armes offensives près des frontières russes. En outre, un concept clé a également été ignoré dans les réponses, à savoir l'indivisibilité de la sécurité ou le principe selon lequel aucun État ne doit renforcer sa propre sécurité au détriment de celle des autres. Lors de l'examen de la situation en Ukraine, le président russe a souligné l'importance du strict respect par Kiev des accords de Minsk de 2015 et d'autres accords. Alors que la France préside le Conseil de l'Union européenne jusqu'à la fin du premier semestre de 2022, Messieurs Macron et Poutine sont convenus de poursuivre le dialogue franco-russe sur l'ensemble des questions de sécurité européenne. Si les États-Unis imposaient de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie, ils risqueraient de couper complètement les relations avec Moscou. C'est ce qu'a dit le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, vendredi 20 janvier. En ce qui concerne la menace de nouvelles sanctions, nous avons dit aux Américains, lors des contacts entre les présidents, que l'ensemble de nouvelles sanctions envisagées actuellement par Washington, comprenant une fermeture complète des systèmes financiers et économiques contrôlés par l'Occident, équivaudrait à une rupture des relations, a ponctué M. Lavrov. L'Occident comprend cela et un tel scénario ne serait clairement pas dans les intérêts de qui que ce soit, a noté le ministre russe lors d'une interview accordée à des médias russes. Nous ne souhaitons pas la guerre, mais nous n'autoriserons pas non plus d'attaques sérieuses contre nos intérêts, a ponctué M. Lavrov. Le ministère rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale a annoncé jeudi soir à travers un communiqué la réouverture de la frontière de Gatuna entre le Rwanda et l'Ouganda, fermée depuis près de deux ans suite aux accusations mutuelles d'ingérence politique et d'espionnage. Le gouvernement du Rwanda tient à informer le public que le poste frontière de Gatuna entre le Rwanda et l'Ouganda sera rouvert à partir du 31 janvier 2022. Indique le communiqué. Le poste Gatuna, principale frontière entre le Rwanda et l'Ouganda, est rouverte au lendemain d'une visite effectuée au Rwanda le 20 janvier 2022 par le lieutenant général Muhoozi Kainerugaba, conseiller principal du président ougandais pour les opérations spéciales et commandant des forces terrestres de l'armée ougandaise. Le gouvernement rwandais constate qu'il existe un processus de résolution des problèmes soulevés par le Rwanda et se félicite des engagements pris par le gouvernement ougandais pour surmonter les obstacles restants. Les relations entre les deux parties voisines d'Afrique de l'Est sont au plus mal depuis près de 4 ans. Le Rwanda accuse l'Ouganda de soutenir des groupes armés contre lui, d'héberger des groupes hostiles, d'enlever et de torturer des Rwandais dans son territoire, ce qui a entraîné la fermeture de la frontière en février 2019. L'Ouganda a également accusé le Rwanda de tenter d'imposer un embargo commercial et de faire de l'espionnage. les autorités ougandaises n'ont pas encore réagi à cette décision de Kigali. Mais le général Muhoozi et le gouvernement ougandais ont déjà relayé le communiqué rwandais sur leur compte officiel Twitter. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Résistance. Israël déverrouillé. Un groupe de hackers, connu sous le nom du bâton de Moïse, a déclaré avoir piraté les caméras de surveillance dans les rues des territoires palestiniens occupés par le régime sioniste. Le bâton de Moïse a diffusé une vidéo sur sa chaîne Telegram vendredi matin, montrant qu'il a piraté les caméras de surveillance dans les rues de la Palestine occupée, pas loin des locaux de la fameuse compagnie Rafael. Dans un message publié sur son site web intitulé « Nous voyons par vos yeux », le groupe de hackers s'est adressé aux responsables israéliens. Nous vous surveillons depuis de nombreuses années, à chaque instant et à chaque étape. Ce n'est qu'une partie de notre surveillance sur vos activités grâce à l'accès aux caméras de surveillance. Nous avions déjà dit que nous vous frapperions alors que vous ne l'auriez jamais imaginé. Lors d'une autre attaque, en novembre 2021, le bâton de Moïse a mené une cyberattaque massive contre le régime sioniste en s'infiltrant dans les serveurs de grandes entreprises. Suite à cette cyberattaque, le groupe de hackers a eu accès à des données complètes qui pourraient être divulguées. Le groupe a déclaré avoir ciblé un certain nombre d'entreprises israéliennes, ce qui lui a permis d'avoir accès à des informations sur l'emplacement et les caractéristiques des systèmes vitaux dans les territoires palestiniens occupés d'Israël. Les données comprenaient des relevés cartographiques aéroportés avec une précision de 5 cm de pouce et des images tridimensionnelles de sites militaires israéliens et de bâtiments importants. Le bâton de Moïse a déclaré que les informations dont il disposait étaient d'une immense importance au milieu des sanctions internationales qui empêchent un accès précis aux images aériennes des zones critiques à l'intérieur des terres palestiniennes occupées, montrant ensuite une vidéo montrant des photos et des cartes des installations vitales de ce régime. En octobre 2021, le bâton de Moïse a publié sur Telegram ainsi que sur le Dark Web des informations privées sur les membres d'une brigade de combat de l'armée israélienne, suite à quoi des experts en cybersécurité israéliens ont appelé à la mise en œuvre des meilleurs protocoles de sécurité numérisés. Les fichiers publiés contiennent des détails sur les déploiements d'une brigade de combat de l'armée israélienne, y compris des descriptions de postes, une liste complète de noms des membres de la brigade et de leurs coordonnées. Certains fichiers contiennent des détails sur les soldats de réserve de l'armée israélienne et les unités militaires, y compris les noms, les grades, les rôles militaires et leur correspondance avec leurs unités, expliquant la raison pour laquelle ils n'ont pas pu se présenter au travail. Des photos du ministre des Affaires étrangères, Benny Gantz, ont été également publiées par le groupe, accompagnées d'une menace en ce sens qu'il était surveillé par les pirates.